Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour ou bonsoir selon l'endroit du monde d'où vous nous écoutez. Et vous nous écoutez aujourd'hui avec le géographe Jean-Robert Pitt. Nous allons nous rendre ensemble à Shanghai, non seulement à l'exposition universelle 2010, mais aussi dans la ville de Shanghai, qu'il a certainement visitée avec beaucoup d'intérêt. Bonjour, monsieur Pitt.
Bonjour.
Alors, vous revenez de Shanghai, vous représentiez en tant qu'académicien l'Institut de France et l'Académie des sciences morales et politiques. Qu'avez-vous présenté aux visiteurs chinois, je suppose, en majorité, qui venaient visiter le pavillon de France?
Écoutez, je suis resté une grosse semaine à Shanghai et j'ai donné presque tous les jours une conférence sur le vin, cœur de l'identité française. Donc, conférence d'une heure environ à chaque fois, suivie d'une dégustation de 5 vins différents, parfois 6, et à chaque fois devant un public de 120 à 150 Chinois, de tous âges, de toutes professions, certains francophones, beaucoup, la plupart non francophones, mais avec des interprètes chinois de très très grande qualité, ce qui fait que j'ai pu dire des choses assez complexes, je dirais, et j'ai eu l'impression que le message passait et que, en tout cas, il y a une passion actuellement pour le vin en Chine, donc j'étais très heureux.
Oui, vous la sentez, les Chinois se mettent maintenant
Chinois,
au vin d'abord, ce qui est nouveau.
Les Chinois suivent à peu près ce qu'ont fait les Japonais il y a 30 ans et les Coréens il y a une quinzaine d'années. C'est-à-dire le vin devient une sorte de symbole de la mondialisation heureuse, de l'idée d'échange de biens culturels, et donc ils se passionnent vraiment pour le vin. Ils en produisent beaucoup, c'est le 7e producteur de vin au monde. Ils en consomment de plus en plus, enfin pour le moment ça reste modeste, c'est 1 litre de vin par Chinois et par an, mais ça fait quand même 1,2 milliard de litres.
Oui, évidemment, mais enfin 1 litre
Et surtout il y a dans les grandes villes comme Shanghai, comme Pékin, comme Canton, comme Hong Kong, des amateurs très éclairés et qui se constituent des caves. Il y a des importateurs, il y a des bars à vin dans tous les hôtels. C'est très passionnant, cette flambée, cette passion pour le vin aujourd'hui.
Alors, dans votre conférence, vous leur expliquez quoi? L'histoire du vin?
Oui, je leur ai essayé d'expliquer pourquoi le vin était intrinsèquement lié à la culture française, à l'identité française, pour des raisons qui sont en partie religieuses, mais aussi esthétiques. Nous avons hérité de cela des civilisations de la Méditerranée, donc de la Grèce, de Rome, du christianisme. Et puis, c'est devenu vraiment le cœur de l'art de vivre en France, de l'art de partager et de l'art d'entrer dans le monde de la complexité et de la responsabilité. Donc, c'est ça que j'ai essayé de leur montrer. Et visiblement, ça...
Le message passait.
Le message passait, d'abord parce que c'est une boisson exotique très à la mode en Chine, mais aussi parce qu'il y a dans Confucius, quand on lit Confucius, des passages qui concernent alors les boissons fermentées chinoises à base de céréales, les vins de riz, si on peut dire, ou de sorgho. Des passages très comparables, tout ça est très très bon pour l'optimisme, pour le partage, l'échange. Mais attention, n'en abusez pas parce que là, il y a danger et vous risquez de tomber dans des excès qui vont vous dégrader.
Alors, est-ce que cette démarche que vous faisiez au pavillon français de l'exposition universelle entrait aussi pour vous dans ce combat, si je puis dire, entre guillemets, que vous avez mené pour classer le vin et la gastronomie française dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO?
Oui, c'est une partie parce que le combat que nous menons et nous attendons la réponse de l'UNESCO pour le mois de novembre, c'est de classer au patrimoine immatériel de l'UNESCO le repas gastronomique des Français. Et un des aspects spécifiques du repas gastronomique des Français, c'est le mariage mets-vins. Avec un mets correspond un vin dans un grand repas. On peut boire jusqu'à 4 ou 5 verres de vin différents en fonction des mets qui sont servis. Et ça, j'ai évidemment parlé de ça avec nos amis chinois. J'avais essayé d'imaginer même les plats chinois de cuisine chinoise qui pourraient se marier avec tel ou tel vin, mais en leur disant que l'organisation du banquet à la chinoise ne peut pas convenir à ce mariage harmonieux puisqu'on met en général 10, 20, 30 plats ensemble sur la table, ce qui impose à ce moment-là le vin unique.
Alors que nous, effectivement, ça se déroule.
Depuis le début du 19e siècle, avant, c'était le grand repas à la française du 18e siècle ou du 17e siècle, c'était tout sur la même table. Mm-hmm. C'était le service dit à la française. Puis on est passé progressivement au service dit à la russe avec une succession de plats qui finalement a fait émerger cette idée vraiment intéressante du mariage mets-vins.
Alors vous dites que vous leur avez fait déguster 5-6 vins, on peut savoir lesquels?
À chaque fois les vins étaient différents, donc vous voyez...
Ah mais vous étiez parti avec des caisses entières, non?
Comment
avez-vous
fait pour vous? Se trouve qu'au pavillon de la France, au pavillon de la France de l'exposition universelle, il y a un restaurant qui est tenu par les frères Pourcel, qui sont des jumeaux grands restaurateurs et grands cuisiniers à Montpellier, et qui ont fait venir beaucoup, beaucoup de vins, grâce à des importateurs d'ailleurs chinois le plus souvent. Mais enfin, c'est eux qui ont choisi les vins. Et à chaque fois, on a choisi des vins de bonne qualité, sans tomber dans les vins les plus chers, évidemment. Mais 5 vins différents, bien contrastés. Donc souvent, un champagne, 2 vins blancs secs, 2 vins rouges, parfois 3 vins rouges. de différentes régions, donc vin de la Loire, vin de Bourgogne, vin de Bordeaux, vin d'Alsace, Champagne, vin du Languedoc, vin de Provence.
Bon, alors ça fut un grand succès.
En tout cas, j'étais heureux de faire ça parce que j'ai senti un public vibrant sur des sujets qui ne sont pas toujours évidents quand on n'a pas ça dans sa culture depuis son enfance.
Et alors, le géographe qui est allé à Shanghai, alors quelle impression avez-vous eue de la ville en dehors, justement, de cette exposition universelle ?
Alors, on peut parler quand même de l'exposition parce que c'est quelque chose d'extraordinaire de voir cette immense exposition de part et d'autre du fleuve qui traverse la ville de Shanghai. Donc j'irai à 2 kilomètres du centre du Bund, qui est le cœur même de Shanghai. Et cette exposition, c'est extraordinaire parce que pour la première fois, je crois, dans l'histoire des expositions universelles, tous les pays du monde ont un pavillon ou un stand. Et pour les pays les plus pauvres, c'est la Chine qui a payé le stand. Donc il y a un grand pavillon africain où un certain nombre de pays ont des petits stands à l'intérieur. Mais de voir un stand de la Corée du Nord, de voir un stand de tous les pays du Golfe Persique aussi, de voir le Qatar et Koweït face à Israël, c'est intéressant aussi. Donc c'est vraiment, les Chinois ont voulu que le monde entier soit là. Et je crois que comme dans toutes les expositions universelles depuis le 19e siècle, chacun a fait un gros effort d'imagination, d'originalité. Il y a des pavillons qui sont réellement époustouflants, très intéressants, d'autres moins ou plus sobres. J'ai trouvé que certains pays européens avaient fait de très gros efforts pour être à la fois dans le domaine de l'art, de l'étonnement, mais aussi de la beauté pour montrer tout ce qu'il y a de meilleur chez eux. C'est le cas, par exemple, j'ai trouvé personnellement, de l'Espagne et de l'Italie. Je dirais que le pavillon français a une belle architecture. En plus, on y fait moins la queue que dans les autres parce que c'est un système d'aspirateur. Il y a un escalator qui monte très très vite au dernier, puis après un grand plan incliné qui descend les 4 étages jusqu'au rez-de-chaussée. Mais disons qu'il y a peut-être moins de choses à voir que dans d'autres pavillons nationaux. Voilà, c'est comme ça.
C'est
la France, a fait plutôt dans la sobriété, alors que l'Espagne a fait dans la flamboyance, par exemple. Mais la Chine aussi a un pavillon gigantesque avec quelque chose moi, qui m'a beaucoup fasciné. J'ai peur de me tromper dans le nom. Enfin, en tout cas, vous savez qu'il y a un certain nombre dans les musées chinois de rouleaux très très longs qui font parfois plusieurs mètres de longueur et sur lesquels on représente des villes avec toutes les activités, les personnages et qui, dont certains remontent à 1000 ans. Et l'un de ces rouleaux les plus célèbres a été reproduit en très très grand format sur un écran, donc c'est dans une pièce immense qui doit faire une centaine de mètres de longueur. Et là, tout ça est animé, en couleur, fait à partir d'un vrai rouleau. Mais tous les personnages sont animés et on les voit circuler, on les voit dans toutes leurs activités et on voit la nuit aussi. Enfin, c'est absolument merveilleux.
Enfin, vous avez beaucoup apprécié, vous avez beaucoup visité, vous avez profité aussi.
J'ai eu la chance. Vous savez qu'on fait, il y a 500 000 visiteurs par jour à l'exposition universelle. Le pavillon de la France en reçoit 50 000. C'est-à-dire que déjà, depuis son ouverture au mois de mai, le pavillon a reçu 3 millions de visiteurs.
C'est considérable.
C'est considérable. Mais donc, on fait la queue partout. Celui de la France n'a une queue que de 2 heures. Mais le pavillon de l'Arabie Saoudite, par exemple, a une queue de 9 heures.
Et grâce à vous, alors maintenant, ils sauront qu'il y a un institut de France, 5 académies, en tout cas une académie des sciences morales et politiques.
Dans laquelle on parle de vin.
Et la ville de Shanghai, donc, vous
alors,
assemblez
la ville de Shanghai,
elle-même.
C'est la troisième fois que je la visite. Je l'ai visitée pour la première fois en 1994, la deuxième fois en 2001 et la troisième fois cette année. C'est méconnaissable à chaque fois. La première fois en 1994, c'était encore une ville de la Chine communiste avec des bâtiments assez noirs, une ville assez sale, de la foule déjà, mais pas une ville fascinante, bien sûr, surtout que c'est la ville où il y a le plus de patrimoine occidental. C'est ça qui caractérise Shanghai, c'est qu'il y a quelques monuments anciens, des temples, un temple de Confucius, par exemple, un très beau jardin chinois ancien, le jardin Yu, qui sont pas très loin du centre. Mais ce qui est le plus visible, le plus spectaculaire, c'est la façade du Bund, c'est-à-dire tous ces grands bâtiments qui datent de l'époque des concessions, de la concession internationale, de la concession anglaise, avec des bâtiments qui ressemblent, enfin, de style victorien, en granit, très majestueux, qui sont sur le fleuve. Mais c'était vraiment triste il y a 20 et quelques années, 25 ans. En 2001, déjà, ça avait commencé à changer, la ville avait commencé à se moderniser. Là, on est dans une ville japonaise ou une ville américaine. C'est-à-dire que tout a été restauré, tout est magnifique, tout est propre. On peut manger par terre, partout. Il y a des lignes de métro dans tous les sens, les bus sont silencieux. Il y a quelques embouteillages, mais uniquement de voitures presque neuves. Il y avait des embouteillages il y a 25 ans, mais c'était de vélos ou de guimbardes. Il y avait encore des chevaux, etc., dans toutes les villes. À Pékin,
là,
pareil.
On a franchi un stade.
On a franchi. Alors, bien sûr, là, je crois que le gouvernement chinois a fait beaucoup d'efforts pour montrer, donner un certain visage à la ville de Shanghai, qui n'est peut-être pas celui qu'elle avait il y a 6 mois ou il y a 1 an. Mais c'est une ville tout à fait extraordinaire et surtout, il y a la foule partout, bien sûr, partout. Une foule plutôt canalisée, on se sent en sécurité partout. Et la jeunesse ressemble exactement à la jeunesse parisienne. Elle a les mêmes blue jeans troués, les mêmes t-shirts à la mode, les mêmes marques. Alors parfois ce sont des faux sans doute, mais enfin, il y a une frénésie de consommation. La fameuse rue de Nankin, hein, la Nanjinglou, qui est le cœur commercial de Shanghai, c'est extrêmement impressionnant de voir les enseignes qu'il y a, la foule et le plaisir qu'ont les Chinois à vivre un peu à la manière occidentale. On ne sent pas à Shanghai, pas plus d'ailleurs dans l'exposition universelle, on ne sent pas cette espèce d'amertume qu'ont parfois les Occidentaux dans la consommation. Et que le discours, d'ailleurs le discours des philosophes, des moralistes, reprend beaucoup. Pourquoi s'intéresser tant à la société de consommation, etc. Les Chinois, pas du tout. Les Chinois, ils sont heureux de consommer. Les restaurants sont archi pleins, les restaurants de hamburgers sont archi pleins. On boit de cette fameuse boisson américaine marron et gazeuse que vous connaissez bien partout. Et pour eux, ils font ça avec jubilation. Donc on sent une jubilation dans cette ville. Bon, ça ne doit pas être vrai de toutes les campagnes chinoises, mais dans d'autres villes, à Pékin, il y a un petit peu plus de poids de la haute administration, puis de l'administration, du pouvoir central. Shanghai, c'est la ville du commerce. Enfin, c'est New York par rapport à Washington.
Au fond, c'est une image de la mondialisation, comme vous dites, bien vécue, du moins,
oui, plutôt,
apparemment.
Plutôt bien vécue, ça n'exclut pas
les problèmes.
Les problèmes existent en Chine, mais là, en ce moment, je peux vous assurer qu'on ne les voit pas. D'abord parce qu'on parle beaucoup de la démographie chinoise, mais là, on voit très, très peu de personnes âgées. La ville est pleine de jeunesse. Il y a beaucoup d'universités, il y a beaucoup de gens, de jeunes qui viennent là, mais il y a beaucoup de jeunes qui travaillent aussi. Enfin, il y a une atmosphère vraiment de joie de vivre et en même temps de frénésie, parce qu'on ne travaille pas 35 heures en Chine, on travaille plutôt 50 heures. Mais une atmosphère qui est très, très étonnante par rapport à ce que j'ai pu connaître dans les années précédentes.
Merci Jean-Robert Pitt.
Merci à vous.
Je vous dis à une prochaine fois, si possible, pour une autre émission éclairage consacrée à la géographie, car nous voulons soutenir la géographie. Il n'y a pas que l'histoire, rappelons-le. Alors merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ces moments de visite de Shanghai et de l'exposition universelle. À une prochaine fois.
À une prochaine fois et merci beaucoup.